Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Et en 2021, c'est toujours du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter à tous une très belle année. Toute l'équipe de Sans Rendez-vous se joint à moi. Nos meilleurs vœux de bonheur et surtout, évidemment, de santé à tous. Alors bien sûr, pour mon et pour votre plus grand plaisir, comme en 2020, en 2021, il est à mes côtés dans ce studio pour vous informer, pour vous éclairer. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Allez, au sommaire aujourd'hui, pour bien démarrer cette nouvelle année, on s'est dit que, comme nous, vous deviez sûrement vous sentir un peu barbouillé après les fêtes et les excès. Eh bien, on va chouchouter votre ventre, vos intestins et surtout toutes les bonnes bactéries qui les peuplent. Vous savez, le fameux microbiote dont on parle tant. Eh bien, notre invité pour en parler, ce sera le professeur Gabriel Perlmutter. Il est chef du service hépato-gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Et il est également l'auteur du livre « Stress, hypersensibilité, dépression ». Et si la solution venait de nos bactéries chez Flammarion. Ensuite, dans notre chronique, les mots du quotidien focus sur une opération qui vient de démarrer depuis quelques jours, le Dry January, un mois de janvier sans alcool ou avec moins d'alcool, en tout cas un mois pour que chacun puisse s'interroger sur son rapport à cette substance. Benjamin Lévesque fera également le point sur les bénéfices que l'on peut en attendre. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons comme tous les jours Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle nous parlera de ces couples qui, bien qu'amoureux, préfèrent vivre séparés.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Allez, tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Maggie.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Au boulot, là, on a un collègue qui s'est présenté avec un œil un peu gonflé et il nous a dit qu'il s'agissait d'un chalazion. Alors, qu'est-ce que c'est? Et surtout, je veux savoir, est-ce que c'était contagieux? Merci à vous.
Alors, pour vous répondre, on a interrogé un spécialiste du sujet, c'est le docteur Damien Gatinel. Il est chirurgien ophtalmologue et chef de service à la Fondation Rothschild. On l'écoute.
Le chalazion, c'est une petite tuméfaction qui peut apparaître sur l'une des paupières, supérieure ou inférieure, que le patient va remarquer parce que ça donne un effet un peu disgracieux et puis ça peut être un petit peu sensible au toucher. Dans les paupières, il existe des glandes appelées les glandes de Bébomus qui fabriquent une partie des larmes et dont les canaux sont dirigés vers le bord des paupières. Un chalazion apparaît quand l'un de ces canaux se bouche. La glande continue à fabriquer son produit, mais comme il ne peut plus sortir, on observe cette petite tuméfaction. Alors, c'est absolument pas contagieux, puisque c'est un phénomène d'origine mécanique et inflammatoire. Et le traitement, justement, repose d'abord sur la prescription d'anti-inflammatoires locaux, des pommades qui contiennent de la cortisone, des antibiotiques, que l'on va appliquer deux fois par jour en massant légèrement. Si au bout d'une semaine ou deux, on observe une non-amélioration, alors il faudra peut-être recourir à l'incision du chalazion. Ça ne laisse pas de cicatrice parce que l'orifice de l'incision est situé au bord interne des paupières.
Eh bien voilà, c'était très clair. C'était le docteur Gatinel au micro de Benjamin Lévesque. Alors Jimmy, on va passer tout de suite à la deuxième question d'auditeur du jour. Cette fois, elle est pour vous. C'est Nicolas qui nous a écrit de Lunel dans l'Hérault. Il vous demande la chose suivante. On n'arrête pas de parler des virus Covid variants qui ont émergé en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud. Le docteur Jimmy Mohamed pense-t-il qu'on peut encore y échapper ici parce que ces mutations ont l'air encore plus méchantes, dit-il. Je me trompe. Franchement, on s'en passerait bien. Merci pour votre avis. Jimmy, alors c'est vrai qu'on parle depuis plusieurs jours de ces variants du SARS-CoV-2. D'ailleurs, je crois que on a déjà eu des cas. Enfin, y échapper, ils sont déjà là, en fait.
Oui, il y a ce qu'on appelle des études génotypiques pour savoir quel type de virus on a. Est-ce que c'est des variants issus notamment du Royaume-Uni qu'on a ou ailleurs? Et effectivement, le virus est déjà sur le territoire. La question, c'est est-ce qu'il va devenir majoritaire et en combien de temps? Ce variant anglais a été observé aux alentours du mois de septembre et a mis 2-3 mois avant de devenir majoritaire en Angleterre et produire une mutation qui fait que le virus est un peu plus contagieux. Et c'est là le risque, puisqu'on sait que ces vaccins, ces virus à ARN, vont commettre beaucoup d'erreurs avec des copies. Il va y avoir des variants, mais qui ne vont pas poser de problème. Et de temps en temps, la mutation peut aboutir à un virus beaucoup plus agressif ou moins agressif. C'est-à-dire que ça peut aller dans un sens ou comme dans l'autre. Et pour l'instant, ça va plutôt dans le mauvais sens du côté anglais.
Alors, j'allais vous demander justement ce variant anglais, si on prend celui-ci, est-ce qu'il est plus méchant, comme il le dit? Parce que vous dites plus contagieux, mais est-ce que c'est plus grave quand on est touché?
Les études à l'heure actuelle montrent que ce variant serait 50 à 70% plus contagieux. D'accord. Puisque la mutation a lieu au niveau de l'enveloppe du virus et le virus se fixerait plus facilement sur les cellules et serait beaucoup plus contagieux. En revanche, il ne serait pas, à l'heure actuelle,
plus mortel, agressif.
Mais mécaniquement... Ouais. Si vous avez 50 à 70% de plus de contagion, vous aurez forcément plus de complications et plus de décès. Donc il faut à tout prix qu'on évite d'en arriver là.
Et ça touche plus les enfants ou pas? Parce que ça aussi, on l'a lu, certains experts disent qu'effectivement, celui-ci toucherait plus les enfants.
À l'heure actuelle, on n'a pas de preuves que ça touche un peu plus les jeunes. Toutes les classes d'âge semblent être touchées et un peu plus les jeunes. Mais ça peut être la première partie de transmission du virus. On a vécu ça chez nous en juillet et en août. D'abord, c'est les jeunes qui ont été infectés et puis ensuite, le virus s'est diffusé massivement. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas conclure à ce que ce virus soit plus contagieux, notamment que sur les jeunes.
Et autre question qui se pose aussi avec l'émergence de ces virus mutés, est-ce que le vaccin qu'on est déjà en train de déployer, finalement, il est encore efficace sur ces souches mutantes?
Deux éléments de réponse. Le premier, c'est ceux du laboratoire qui disent à l'heure actuelle, il n'y a pas de preuve de l'absence d'efficacité du vaccin sur la souche. Ça ne veut pas dire que c'est forcément efficace, mais néanmoins, on a une bonne nouvelle. Le laboratoire Moderna avait annoncé qu'en cas de variant du virus, il est possible de créer un nouveau vaccin en 6 semaines. C'est-à-dire qu'il est possible de s'adapter et que cette simple variation ne posera a priori pas trop de problèmes au vu de ce que les laboratoires disent.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Nicolas ou Maggie, qu'on a entendu, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute surtout, pas d'hésitation.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous donc notre invité du jour, c'est vous, professeur Gabriel Perlmutter. Bonjour.
Bonjour, bonne année.
Bonne année également. Vous êtes chef du service hépato-gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart et vous êtes l'auteur du livre pour lequel on vous a déjà reçu dans cette émission, mais il y a tellement à dire qu'on s'est dit, on le réinvite. Le livre c'est « Et si la solution venait de nos bactéries ?» publié chez Flammarion. Alors justement, dans ce livre, professeur, il y a une question qui aurait pu nous sembler absurde il y a quelques années, mais qui aujourd'hui ne l'est plus du tout, c'est est-ce que j'ai mal au ventre parce que je suis anxieux ou au contraire suis-je anxieux parce que ça ne va pas dans mon ventre? Et donc une question cruciale, vous ouvrez votre livre un peu là-dessus, c'est quoi la réponse?
Ah mais c'est ça qui est passionnant parce que, et moi j'ai fait mes études comme ça, on est stressé, on n'est pas bien, on a mal au ventre. Et ça c'est évident. Et puis quand on commence à comprendre, à appréhender les mécanismes qu'on a au niveau du ventre et ce qui se passe dans le ventre et toutes les bactéries qu'on a et on commence à travailler dessus, eh ben on voit que la réponse n'est pas aussi simple que ça. C'est vrai que si vous êtes stressé, vous aurez mal au ventre, on dit bien la peur au ventre et puis avant les examens, beaucoup de personnes ont une petite diarrhée. Mais quand vous avez toujours mal au ventre, quand vous n'êtes pas bien, quand vous devez chercher des toilettes, maintenant on sait qu'il y a des dysbioses associées, eh bien ça vous stresse, ça peut entraîner des restrictions sociales, vous pouvez être bloqué chez vous. Vous pouvez avoir une anxiété qui va être générée par ces douleurs au niveau du ventre. Et on sait maintenant que même vos propres bactéries, en fonction de celles que vous avez, vont aller fabriquer des produits différents. Et ces produits eux-mêmes peuvent faire que vous irez bien ou pas bien. Et donc ces bactéries, si on savait que ça jouait sur l'allergie, sur le surpoids, sur l'obésité, sur le diabète, et bien maintenant on se rend compte qu'elles vont jouer sur votre comportement. Et donc vous êtes stressé, vous avez mal au ventre, c'est vrai. Vous avez mal au ventre, ça va vous stresser. C'est vrai aussi, et donc ça ouvre plein de possibilités de traitement.
Et depuis quand est-ce qu'on s'intéresse réellement à ce microbiote? Parce que je reste un jeune docteur, et pendant mes études, on n'en a quasiment jamais parlé. J'ai l'impression que c'est une révolution, mais qui est toute récente, ou en tout cas pour laquelle on a enfin un peu de preuves, alors qu'avant c'était un peu très fou.
Alors, effectivement, moi-même dans mes études, et vous-même Ginny, c'est vrai qu'on nous en a pas parlé, du microbiote, ou un peu, ou ça faisait un peu rigoler. Et puis... avec l'avènement de la biologie moléculaire, on a arrêté de simplement cultiver des bactéries, mais on a étudié le génome des bactéries. On a séquencé l'ADN des bactéries, on a découvert qu'il y avait plein de bactéries partout. Et grâce à ces techniques qui facilitent l'étude, qui rendent les études plus précises, eh bien, on a commencé à s'intéresser au microbiote. Et puis d'abord, c'était des études qui montraient que le microbiote, eh bien, était impliqué dans le surpoids, que le microbiote, ensuite, ça allait plus loin, était impliqué dans le diabète. Et puis, on a vu dans certaines maladies du tube digestif, les colites inflammatoires, maladies de Crohn-rectocolite. Et puis ensuite, on a réfléchi, on a vu que le tube digestif était lié au foie, par la veine porte, et donc le microbiote joue sur le foie. Puis après, on s'est rendu compte que le microbiote changeait avec le temps, que nous, dans notre monde occidental, on a un microbiote différent depuis 50 ans par rapport à ce qui se passait avant. Et donc, beaucoup, beaucoup d'études ont été faites là-dessus. Il n'y a pas tant d'équipes qui travaillent là-dessus, mais beaucoup d'études ont été faites et on appréhende bien, en termes de mécanisme, l'implication du microbiote sur notre propre santé, l'implication de notre environnement, si on pense à la santé globale, sur notre santé, au fait que les modifications de la planète, les modifications de l'alimentation, les modifications des élevages vont aussi changer notre propre microbiote. Et donc, on se rend compte que tout est lié. Et ça ouvre du coup la possibilité de cibler le microbiote comme un outil de traitement. Et donc, je dirais que ça fait 15 ans qu'on a une vraie preuve d'action du microbiote. Et en termes d'efficacité médicale, bah, ça va un peu, la translation de la science à la médecine prend du temps.
Alors le microbiote, vous disiez, on a découvert donc avec l'imagerie qui s'est améliorée, etc., le fait qu'on a des bactéries, on en avait partout, y compris donc, dans le tube digestif, parce que ce microbiote intestinal, finalement, le plus conséquent, il est là. Ce n'est pas sur la peau, c'est dans le ventre. On a, je crois, plus d'un kilo et demi de bactéries dans le ventre, c'est
absolument.
Ça
absolument. Si vous prenez toutes vos bactéries, vous en faites un petit pâté, vous aurez un kilo et demi de bactéries.
On a mangé assez de pâté pendant les fêtes, là, ça va aller.
Vous en aurez un kilo et demi, c'est énorme, ça fait 100 000 milliards. Et donc, on comprend bien qu'avoir tous ces êtres vivants en nous, alors qu'on va bien, n'entraîne pas d'infection. Et donc, ça veut dire qu'il y a une véritable symbiose, c'est-à-dire un écosystème vraiment original qui fait que malgré toutes ces bactéries, on est en bonne santé. Et quand elles sont en bonne santé, notre santé sera encore meilleure. Et juste pour vous montrer l'importance des bactéries, si vous prenez les êtres sur notre planète les plus importants, en nombre, c'est des bactéries sur toute la planète.
Plus nombreuses que nous. Même.
Plus nombreuses que nous.
Vous avez parlé un petit peu du lien entre le foie et le microbiote, et je crois que ça peut vous aider, notamment à résoudre un casse-tête. C'est pourquoi face à de l'alcool, certains vont être très malades, d'autres pas du tout, certains addicts, d'autres pas du tout. Et la réponse serait peut-être en partie dans le microbiote.
Pas peut-être, Jimmy, elle est dans le microbiote, certainement.
C'est par là que vous avez commencé, je crois, vos recherches.
En partie, c'est comme ça que j'ai commencé à l'hôpital Béclair, où, eh bien, je me suis demandé pourquoi certaines personnes qui consommaient de l'alcool étaient malades du foie et d'autres qui consommaient de l'alcool allaient parfaitement bien. Et après, ça, on le décline. Pourquoi comment ça se fait qu'on consomme de l'alcool ou pas, ou qu'on n'a pas envie d'en consommer. Alors, l'idée était qu'il y avait des gènes. Effectivement, il y a certains gènes de prédisposition à faire une maladie du foie ou être addict à quelque chose. Mais il n'y a pas que ça. On s'est rendu compte qu'on était capable de transmettre la sensibilité à l'alcool de l'homme à la souris en transférant des bactéries de l'homme à la souris. Et inversement, une souris qui est sensible à l'alcool, vous lui transmettez des bactéries d'une personne qui consomme de l'alcool mais qui va bien, vous allez guérir le foie de la souris. Et donc ça montre le rôle causal du microbiote dans l'addiction à l'alcool, dans la maladie du foie liée à l'alcool et dans d'autres maladies du foie également.
Vous dites donc le microbiote, il a une action sur notre foie, ça on vient de le comprendre. Donc on le sait aussi maintenant sur l'organisme dans son ensemble. On a parlé un petit peu du cerveau, mais juste pour avoir une idée, c'est pas que sur ça, c'est sur tous les organes qu'il a une action, ce microbiote, ou un lien en tout cas.
Alors, il y a des liens sur tous les organes. Il faut bien faire attention à pas raconter n'importe quoi. Mmh. Parce que quand vous avez une corrélation, il se passe quelque chose, vous voyez des modifications associées à une maladie, ça ne veut pas dire que c'est une cause. Mmh. Je vois quelqu'un qui consomme de l'alcool qui est malade du foie, je vois des bactéries différentes, ce n'est pas pour autant que les bactéries vont rendre le foie malade. Après, il y a des expériences de transfert, des expériences scientifiques de transfert de bactéries d'homme à une souris, montrant que c'est un rôle causal. C'est un rôle causal si aussi je vous guéris en changeant votre microbiote dans des études bien faites. Donc oui, c'est un rôle causal, oui, on peut changer le microbiote, c'est ça qui est intéressant en fait.
Et ce microbiote, il est fragile, il peut être déséquilibré, c'est ce qu'on appelle la dysbiose.
Et donc il peut être déséquilibré, et donc quand on a le rôle causal, le nombre de maladies où on a un rôle causal est de plus en plus important, et toute l'originalité maintenant, c'est qu'on sait que c'est sur des maladies somatiques, mais aussi sur des maladies psychiatriques. Rendez-vous compte, vous êtes déprimé, vous prenez vos bactéries, vous les transférez à une souris, vous allez modifier le comportement de la souris. Ça veut dire que vous transférez une modification de comportement par vos bactéries. Et donc, comme vous le dites, Jimmy, effectivement, c'est extrêmement important. Le microbiote est fragile, de bien en prendre soin.
Allez, professeur Perlmutter, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. En studio aujourd'hui, notre invité, c'est vous, professeur Gabriel Perlmutter. Vous êtes chef du service hépato-gastro-entérologie à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart et l'auteur du livre « Et si la solution venait de nos bactéries ?» publié chez Flammarion. Alors justement, dans votre livre, on apprend qu'il y a peut-être certaines bactéries présentes dans notre tube digestif qui pourraient nous rendre tristes. Alors moi, je croyais qu'il y avait que la morose ambiante, mais non, dans notre ventre, ça peut finalement donner des émotions négatives, c'est ça ?
Absolument. On sait par exemple que chez certaines personnes hypersensibles, vous avez plus de Prévotella. On sait que en mangeant de façon déséquilibrée, par exemple, plus sucrée, plus grasse, on va modifier le microbiote et on peut modifier le comportement. C'est très bien démontré chez les souris. C'est évidemment plus compliqué à faire la preuve chez l'homme, mais il n'y a pas de raison que ce soit vraiment différent. Et donc, effectivement, surtout dans cette période génératrice d'anxiété, quand même, avec la Covid, je pense que c'est important de faire attention à soi, de faire attention à son microbiote pour essayer d'aller bien et de le rendre heureux.
Parce que justement, on a comparé le microbiote de personnes occidentales à des personnes dans des populations africaines. Et là, les différences, elles sont assez flagrantes, je crois.
Absolument. Vous avez dans le microbiote occidental, en fait, un appauvrissement en nombre de bactéries, en diversité bactérienne par rapport au microbiote qu'on peut trouver en Afrique. On compare, on pense que le microbiote qu'il y a en Afrique, où les personnes ont une alimentation plus riche en fibres, en fait, pourrait ressembler à celui qu'il y avait en Europe il y a des années auparavant. Donc, il n'y a pas de jugement de valeur sur dire c'est moins bien maintenant, c'est mieux maintenant. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire simplement que le mode d'alimentation occidental, avec une alimentation très industrialisée, avec une alimentation transformée, avec des additifs alimentaires, avec des émulsifiants, va modifier notre microbiote, va l'appauvrir.
Et nous rendre plus tristes, plus stressés, ça
et
oui
et peut nous rendre effectivement plus tristes, plus stressés, plus susceptibles à faire certaines maladies, que ce soit des maladies somatiques ou que ce soit des maladies psychiatrique. C'est comme des susceptibilités. Imaginez une marche d'escalier, vous montez, puis au bout d'un moment, vous arrivez sur la ligne de crête et vous tombez du mauvais côté. Et le microbiote est un facteur majeur qui est très intéressant parce qu'on peut le modifier, sur lequel il faut agir pour éviter de monter ces marges de susceptibilité vers le développement d'une maladie somatique ou psychiatrique.
Alors, si le déséquilibre de ce microbiote et le fait qu'il y ait la présence ou pas de certaines bactéries, vous parliez de la bactérie Prevotella tout à l'heure qui peut nous rendre tristes, est-ce que triste ou agressif même peut-être, est-ce que ça voudrait dire que par exemple, je ne sais pas, chez des grands criminels, des tueurs en série, des bourreaux, il serait intéressant un jour d'aller regarder dans leur microbiote ce qui se passe et que ça pourrait même peut-être devenir, je ne sais pas, un déficit en Prevotella, une circonstance atténuante?
Alors, j'irai pas jusque-là, mais effectivement, ça pose...
Vous allez bouleverser la justice, même, professeur Gabriel.
Le fait, mais c'est exact. Pour moi, si vous voulez, moi, ça m'émerveille. Le fait qu'en fonction de votre microbiote, vous allez avoir un comportement qui est différent, pose la question du libre-arbitre. Est-ce que c'est moi qui suis, qui fais ce que je veux, ou est-ce que les bactéries vont modifier mon propre comportement? Et les personnes qui sont moins sensibles, les personnes qui ont moins d'empathie, moins de compassion, certains hommes politiques peut-être, certains criminels peut-être, peut-être aussi, je ne sais pas.
Jimmy, il y a certains jours, il est méchant avec moi, donc c'est sûr, il y a peut-être un déficit.
Peut-être ça dépend de ce que vous avez mangé avant.
J'ai juste mérité, Mélanie, c'est tout, ça n'a rien à voir.
Voilà, et donc peut-être que, effectivement, une personne qui a une dysbiose très importante va avoir certainement un comportement différent. On sait aussi que certains médicaments vont changer notre comportement. Ces médicaments changent aussi nos bactéries. Il est possible qu'un des mécanismes par lesquels les médicaments vont changer notre comportement implique aussi des modifications du microbiote intestinal. Alors, jusqu'où va aller la justice là-dessus? Là, on est sur la boutade.
On n'en est pas là.
Mais ouais. Vraiment, ça pose la question, je trouve, philosophiquement, de notre libre arbitre. Nous, être multicellulaire.
Et de
par
ce
rapport,
cerveau qu'on a dans le ventre,
et de,
finalement.
Par rapport
c'est
aux
ça.
Bactéries qu'on a en nous, c'est ce qu'on appelle l'holobionte, cette interaction qu'on a entre nous deux.
Et justement, dans votre livre, vous décrivez une expérience extraordinaire chez la souris qui devient suicidaire lorsqu'elle est infectée, notamment par un parasite, la toxoplasmose.
Alors, c'est vraiment l'histoire caricaturale et géniale de la nature, en fait. Le Toxoplasma gondii est un parasite qui doit passer de la souris au chat pour se multiplier. Et puis, vous le savez bien, les souris, elles n'aiment pas les chats. Non. Elles s'enfuient quand elles voient un chat. Et donc, en fait, ce Toxoplasma gondii, quand il est dans la souris, il va changer le comportement de la souris. Il va faire que la souris va être attirée par l'odeur de l'urine du chat. Et comme ça, la souris va se rapprocher du chat. Le chat pourra sauter dessus, la manger. Et le Toxoplasma va être heureux parce qu'il pourra passer de la souris au chat. Et c'est juste hallucinant de voir comment ce petit parasite est capable de modifier le comportement d'un mammifère et le rendre suicidaire. Ça montre quand même comment ces êtres unicellulaires sont capables de nous modifier. Et puis on peut aller plus loin. La Covid, ça modifie le poumon, c'est quoi? C'est un bout d'ARN. C'est
tout. Ouais. Alors chez les humains, c'est peut-être un peu plus complexe que la toxoplasmose nous rend suicidaires, mais il y a d'autres facteurs probablement qui interviennent. Mais dans les addictions, par exemple, vous dites qu'il faudrait ne pas négliger l'importance des bactéries intestinales. Et dans votre livre, vous racontez l'histoire d'un patient alcoolodépendant, Robert, que vous avez guéri en réparant son microbiote. Racontez-nous.
Alors, Effectivement, mais ce n'est pas moi qui guéris le patient. Moi, j'apprends au patient, à son propre médecin, à se guérir tout seul. Et c'est Robert qu'il faut féliciter pour sa guérison, et ce n'est pas le médecin. Le médecin, il accompagne le patient. Robert est venu me voir à un moment de sa vie où il n'était pas bien, où il avait une consommation excessive d'alcool, où il avait essayé maintes fois d'arrêter, il n'avait pas réussi, et ça devenait vital pour son foie d'arrêter. Il faut bien comprendre qu'une personne qui consomme de l'alcool, elle sait qu'elle doit arrêter l'alcool, c'est comme une personne qui consomme du tabac, sait qu'elle doit arrêter le tabac, mais il y a ce qu'on appelle le craving, l'envie irrésistible de consommer de l'alcool qui est là, et dire à quelqu'un « arrête », ça ne marche pas. Et donc, comment ça se passe? Ce sont des mécanismes de neurotransmetteurs, ce sont des mécanismes hormonaux, et on sait maintenant que le microbiote intestinal intervient là-dessus par plusieurs mécanismes, par la fabrication de certains produits par nos bactéries, par une augmentation de la perméabilité de l'intestin. Et donc, pour accompagner une personne qui a des problèmes d'alcool, eh bien, on lui fait évidemment arrêter l'alcool, diminuer et ou arrêter, et puis... Les personnes qui ont une consommation d'alcool ont une alimentation déséquilibrée, souvent un appauvrissement de leur alimentation en fibres, ce qui fait qu'ils vont avoir une dysbiose, en plus de la dysbiose induite par l'alcool. Et donc, on essaye de corriger la dysbiose en changeant l'alimentation,
plus
en
de
donnant
légumes,
des probiotiques,
de fibres,
en donnant des prébiotiques, peut-être en donnant en plus des médicaments. Et donc, Robert est arrivé à un moment de sa vie où il a pu écouter ce discours, où il a pu l'accepter, où il a été assez fort en jouant sur ces différents éléments et en jouant sur le microbiote. Ce n'est pas la seule cible pour pouvoir arrêter l'alcool et ça lui a sauvé son foie. Il a perdu beaucoup de poids parce que l'alcool entraîne également une prise de poids. Et ça, il s'est sauvé la vie. Moi, je l'ai juste accompagné en lui tenant la main.
C'est un bon accompagnement quand même, professeur Perlmutter. On va continuer, bien sûr, cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Il y a de l'ambiance dans ce studio. Vous êtes sur Europe 1 dans ce rendez-vous. Il nous accompagne cet après-midi. C'est le professeur Gabriel Perlmutter, chef du service hépato-gastro-entérologie à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart et également l'auteur du livre « Et si la solution venait de nos bactéries » publié chez Flammarion. Alors avec vous, on parle évidemment de microbiote aujourd'hui. Et dans votre unité de recherche INSERM, il y a un ingrédient magique que vous étudiez. Alors je dis magique, vous allez peut-être pondérer un peu, mais c'est la pectine. Et sur les souris notamment, c'est très prometteur pour faire du bien à ce microbiote.
Alors, il faut comprendre ce que c'est que la pectine. Comment on est arrivé là? En fait, on avait des souris et quand on voulait étudier par quel mécanisme le microbiote était toxique pour le foie. Quand les souris, par exemple, prenaient du poids et le foie était malade ou consommaient de l'alcool. Et on a vu que les souris qui étaient malades du foie manquaient de bactéroïdes test. Voilà, c'est
une
bactérie. Et donc, on s'est dit, tiens, on va voir si on corrige ce manque en bactéroïdes test, ce qui va se passer sur le foie. Comment on a corrigé ça? Soit en faisant une greffe de sel, soit en donnant un prébiotique, c'est-à-dire une alimentation pour faciliter la croissance de certaines bactéries. Et en l'occurrence, la pectine qu'on trouve dans les pommes.
Dans la peau des pommes.
Dans la peau des pommes, dans les pépins des pommes, est capable de faire croître les bactéroïdes test. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on n'a pas donné des pommes aux souris, on a donné directement de la pectine aux souris. Et on a remarqué qu'on guérissait le foie des souris quand elles consommaient de l'alcool. Ça veut dire que malgré la consommation d'alcool, quand la souris consomme de la pectine, eh bien son foie n'est pas malade. Par quel mécanisme ça agit? Ça agit par plusieurs mécanismes. Ça agit en modifiant nos propres les bactéries, en augmentant les bactéroïdes test. Et qu'est-ce qu'elles vont faire ces bactéroïdes test? Elles vont métaboliser un peu notre alimentation, elles vont produire certains composés qu'on appelle des postbiotiques. Ça va agir par certains récepteurs qui se trouvent au niveau des cellules de l'intestin, qui peuvent se trouver au niveau du foie. Et donc, on est en train d'étudier tous les mécanismes par lesquels cette pectine, ce prébiotique, améliore le microbiote et améliore le foie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se retrouve en fait un peu ce que disait Winston Churchill, hein, « One apple a day keeps the doctor away », une pomme par jour éloigne le docteur.
Moi, je vais en acheter plein en sortant d'ici,
voilà,
hein. Je vais manger plein de pommes.
Voilà. Mais si vous mangez les pommes, ne les prenez pas plein de pesticides autour.
Ah non, bio.
Prenez les bio. Mais ça montre quand même que par ce microbiote, on est capable d'apprendre, je trouve, au patient à se protéger lui-même en protégeant ses bactéries et à être son propre médecin.
Il y a d'autres aliments que vous recommandez, notamment dans votre livre, et peut-être aussi qu'on peut en donner aux enfants, puisque je crois que le microbiote se construit notamment dès la plus jeune enfance. C'est le brocoli, c'est pas mal de donner des brocolis aux enfants et aussi aux adultes, c'est un bon aliment.
Alors effectivement, il y a des aliments qui sont riches en prébiotiques ou en certains composés comme le tryptophane, qui est un acide aminé, qui peut avoir un effet bénéfique sur la santé en étant un des métabolites de notre microbiote, c'est-à-dire le microbiote va se comporter de façon différente en fonction de ce que vous mangez, et en particulier en fonction du tryptophane que vous et des brocolis, va fabriquer des composés différents qui vont aller agir sur vos propres cellules, sur les cellules de votre tube digestif. Et quand vous aurez un tube digestif en bonne santé, il va être moins perméable, et donc vous serez mieux sur l'ensemble de votre organisme, aussi bien sur la prise de poids que sur votre tube digestif, que sur votre foie, que sur votre muscle, que sur votre cerveau. Et donc, effectivement, le brocoli peut améliorer, va améliorer le comportement. Et on sait d'ailleurs qu'il y a des études qui ont été faites qu'en modifiant votre alimentation chez une personne un peu anxieuse, un peu déprimée, eh bien, on peut arriver à diminuer le niveau d'anxiété et la dépression en jouant sur l'alimentation. Et c'est, voilà, et c'est pour ça que c'est extrêmement important de prendre les personnes dans leur globalité.
Jimmy disait donner des brocolis aux enfants, aux petits-enfants, parce que le microbiote, ça se joue souvent, on l'apprend dans votre livre, dans les trois premières années, on va dire, et même un peu plus tôt, parce que finalement, même le nourrisson à la naissance, il n'est pas si stérile que ça, il naît déjà avec un microbiote.
Alors en fait, c'est effectivement très important, il faut bien comprendre pour les enfants que c'est vertigineux, mais beaucoup se joue dans les trois premières années de vie.
Donc c'est à nous, parents, de gérer le microbiote.
C'est à nous, parents, de gérer
le
microbiote des enfants. Et effectivement, si vous faites une diversification alimentaire n'importe comment, si vous donnez n'importe quel lait à l'enfant, si vous n'introduisez pas, effectivement, comme le dit Jimmy...
N'importe quel lait, ça veut dire quoi ? Parce que ça...
Les fibres au bon moment, si vous donnez des antibiotiques aux enfants alors qu'ils n'en ont pas besoin, eh bien, vous risquez de le pénaliser ensuite en quant à la formation de son microbiote. Et aujourd'hui, quant au lait, le niveau de preuve est très faible, mais je trouve que ce serait intelligent de donner, quand on utilise un lait artificiel, un lait enrichi en prébiotiques comme les prébiotiques qu'on peut trouver dans le lait de la maman. Alors oui, le niveau de preuve n'est pas très élevé, mais je pense qu'au vu des connaissances scientifiques en 2021, ce serait intelligent.
Bien manger, ça passe aussi du coup par éviter les fast-foods. Ça veut dire que les enfants qui aiment bien les petits hamburgers, c'est déconseillé du coup, hein, parce qu'ils les mangent. Mais
absolument. Alors si vous donnez, comprenez.
Mais c'est jamais.
Quand vous donnez un hamburger, c'est pas un hamburger, c'est un régime qui ressemble à celui d'un hamburger à une souris. Vous allez appauvrir son microbiote. Vous risquez de générer une maladie du tube digestif. Vous allez la déprimer. Et donc nous, c'est la même chose. Sur le coup, vous êtes bien. Parce que vous allez avoir, quand vous prenez une alimentation un peu sucrée, les systèmes de récompense au niveau du cerveau, un peu gras, un peu sucré, qui vont se mettre en route et vous serez bien. Le problème, c'est que c'est comme une addiction, il faut le prendre ensuite de plus en plus pour être bien, c'est quelque chose de court terme. Alors bien sûr, si vous prenez un hamburger de temps en temps, il ne va rien vous arriver, tout le monde le fait et ça ne pose pas de problème. C'est quand ça se répète sur le temps où là, vous allez avoir des modifications du microbiote, du tube digestif, de votre comportement, de votre santé qui vont apparaître et qui vont se fixer ensuite.
Mais ça, jamais avant 3 ans, par contre. C'est sûr, la junk food, on évite complètement.
Pas avant 3 ans. D'accord. Et c'est pareil pour les sodas, par exemple, qui sont extrêmement sucrés. C'est pareil, on se donne bonne conscience avec un jus de fruit qui est extrêmement sucré. Vaut mieux prendre un fruit avec ses fibres qu'un jus de fruit.
Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on a un bon microbiote? Parce que autant savoir si on est diabétique, on fait une prise de sang, vérifier l'état des reins, on fait une échographie, mais... En pratique quotidienne, c'est compliqué.
Jimmy veut faire le point en 2021, il veut savoir dans quel état
Jimmy
il est.
Mais Jimmy a parfaitement raison, j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir, qui veulent une analyse du microbiote.
Ça passe par les selles.
C'est une analyse des selles. Et donc, on peut répondre de plusieurs façons. Quand on fait un examen, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait du résultat de l'examen. Aujourd'hui, en 2021, si vous faites une analyse de selles, ça va vous alléger de 200 à 250 euros et il n'y aura pas de conséquences thérapeutiques, vous n'allez rien en faire. Quand un patient vient me voir... Je vois son comportement, je vois s'il est en surpoids, je vois s'il a des anomalies du foie, je vois s'il a quelques maladies que ce soit. On peut anticiper qu'il va avoir une modification du microbiote avec une dysbiose. Et aujourd'hui, en 2021, ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas encore recommandé de faire des analyses de microbiote. Peut-être que dans un an, je vous tiendrai un discours différent. Mais aujourd'hui, moi-même, qui travaille beaucoup sur le microbiote, je ne prescris pas d'analyse du microbiote. Mais encore une fois, par exemple, on peut imaginer vous faites des modifications de votre alimentation, vous allez cibler, comme vous le dites Jimmy, votre glycémie, vous allez cibler votre balance pour voir si vous perdez du poids. On peut très bien imaginer, vous faites une analyse du microbiote aujourd'hui, vous la faites dans 6 mois, vous voyez si vous l'avez améliorée. Ce n'est pas recommandé aujourd'hui, mais c'est peut-être par là où il faut aller. Et puis peut-être que ce n'est pas la peine d'analyser tout le microbiote, on ne fait pas une prise de sang sur tout ce qu'on fait, mais seulement certaines bactéries d'intérêt, et beaucoup de personnes travaillent là-dessus actuellement.
Alors pour soigner ce microbiote, dans votre livre, vous parlez d'un aliment qui va faire plaisir à tout le monde en ce début d'année, le chocolat. Ça veut dire que même si on s'est gavé pendant les fêtes, on peut continuer. Alors, c'est peut-être pas les mêmes chocolats que ceux qu'on avait dans les boîtes de chocolat, hein. C'est pas celui-là que vous conseillez, c'est le chocolat vraiment noir, c'est ça,
non? Alors le chocolat, déjà c'est bon le chocolat, donc comme c'est bon, on peut en prendre.
Moi j'aime le chocolat au lait, alors non, ça marche pas.
Ouais, alors là ça le fait moins déjà, mais le chocolat le plus noir possible. À partir de 70%, c'est bien. Il faut voir que le chocolat est un produit qui peut être antioxydant, qui peut être anti-inflammatoire. Le problème du chocolat, c'est qu'il est, il est extrêmement sucré. Donc, tout en biologie il y a une partie délétère et une partie bénéfique. Hein. Personne n'est tout blanc ou tout noir, comme dans la guerre des étoiles. Et donc, tout est une question de dose. Si vous prenez un peu de chocolat, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire fabriquer de la sérotonine. Ça va vous faire fabriquer du GABA. Vous serez bien. Le problème, c'est quand vous en prenez trop et tous les jours, vous arriverez sur l'addiction au chocolat. Et là, vous ne serez pas bien. Il faut aller voir autre chose.
La greffe fécale, du coup, ce n'est pas pour demain, pour traiter plein de maladies qui n'ont strictement rien à voir en apparence avec le microbiote. Perdre du poids en prenant la greffe, en prenant le microbiote de son enfant, par exemple, ce n'est pas pour tout de suite?
Alors, c'est pour tout de suite et pas pour tout de suite. Il y a des maladies qu'on traite déjà avec le microbiote intestinal. Quand on a une grosse dysbiose, par exemple une colite à Clostridium, il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour certaines maladies, notamment la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn. Il y a de la recherche qui est faite sur les troubles du spectre autistique. Il y a des troubles qui sont faits pour le surpoids. Il y a une étude très récente qui vient d'être sortie qui montre d'ailleurs qu'avec une greffe de microbiote, on ne perd pas de poids, mais en revanche, on perd de la graisse dans le ventre.
C'est déjà
donc,
ça.
C'est déjà ça. Voilà. Ce n'est pas la solution miracle, mais je pense que c'est une solution qui va venir dans les années qui viennent avec l'autre et qui déjà est là aujourd'hui avec les probiotiques, les prébiotiques, l'alimentation pour améliorer notre microbiote et améliorer notre propre santé en améliorant celle de nos bactéries.
Merci beaucoup, professeur Perlmutter, d'être venu en studio avec nous pour cet éclairage passionnant. Alors, je rappelle pour ceux qui voudraient en savoir plus le titre de votre livre et si la solution venait de nos bactéries chez Flammarion. Merci encore, professeur.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi. Alors à présent, nous allons passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, on s'intéresse au Dry January. Savez-vous de quoi il s'agit exactement et quel est vraiment l'intérêt d'arrêter l'alcool durant un mois? Notre journaliste Benjamin Lévesque a été vous interroger sur le sujet. On écoute pour commencer son micro-trottoir.
Quelque chose qui est en rapport avec mouillé, sec, c'est un mouvement sur quelque chose, je pourrais pas répondre, mais...
Canada dry, je ne vois pas, non, pas du tout.
Il me semble que c'est le mois où on décide de se détoxifier le corps après des excès multiples.
Le dry January, on se dessèche. On se dessèche d'alcool. On ne boit plus pendant le dry January. En fait, je suis pas particulièrement alcoolique, je crois, mais j'ai pas envie de me priver d'une occasion avec des amis, un ami ou une amie, de boire un verre si j'ai envie, parce que c'est dry January de pas le faire.
Il vaut mieux réduire énormément l'alcool que de l'arrêter juste pour une période.
Alors Benjamin, dites-nous tout, c'est quoi ce Dry January?
Eh bien, c'est le défi de janvier, un mois sans alcool. Alors ça existe depuis un peu moins de 10 ans, ce sont les British qui l'ont inventé. Ça vient d'Angleterre et dorénavant, 11 pays y participent, dont la France. Et on estime que l'an dernier, 100 000 Français avaient tenté l'expérience.
Et justement, Benjamin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quels sont les bénéfices de ce mois sans alcool?
Alors d'abord, à court terme, Jimmy, un meilleur sommeil, une plus jolie peau. Et puis plus d'énergie.
Rien que ça, hein, c'est pas mal.
C'est bien connu, lorsqu'on se réveille après une cuite, eh bien on est rarement en forme. Et puis c'est aussi des économies, hein, puisque l'alcool, ça coûte cher. Bref, faire une pause d'alcool, c'est tout bénef. Et ça, David l'a bien compris, cela fait plusieurs années qu'il le fait. Alors lui, deux fois par an, une première fois en janvier, après les fêtes. Et puis en septembre, après les excès de l'été. Et il n'en voit que des bienfaits.
Déjà, une perte de poids, c'est-à-dire que le fait de boire moins d'alcool, j'ai moins de consommation de sucre dans mon corps, qui fait que du coup, je maigris. Allez, 1,5 kg et 2,5 kg par mois que, en fait, où je fais le mois sans alcool. C'est hyper agréable de se réveiller le matin et de ne pas avoir de barre par rapport au fait d'avoir bu la veille. Déjà, j'ai le visage moins fatigué. Je trouve que ma peau est beaucoup plus lisse. Il faut savoir, en fait, à un moment donné, se dire non, on suit quelque chose. Et puis, ça fait vraiment du bien, en fait. Il faut le faire, je le conseille.
Et puis à long terme, on sait que si l'on est capable de faire une pause durant un mois, eh bien on va diminuer à l'avenir le nombre de verres. On va réussir à mieux s'auto-réguler, comme l'explique Nathalie Latour, elle est déléguée générale de la Fédération Addiction.
Quand je sors, est-ce que finalement je dois automatiquement prendre un verre? Est-ce que à chaque fois j'en ai vraiment envie? Ou est-ce que c'est plutôt par habitude sociale, voire parfois par pression sociale? On a tous connu le fameux apéro où c'est plutôt celui qui va dire qu'il ne veut pas boire, qui est interrogé. Et donc c'est remettre en fait, retrouver individuellement, collectivement, les moments où on est vraiment dans l'alcool plaisir et pas dans l'alcool automatisme. Et puis c'est le moyen aussi de faire un point et de se dire est-ce que j'arrive vraiment pendant un mois à pas toucher un verre d'alcool?
Et pour vous aider justement à relever ce défi de janvier, vous pouvez vous inscrire sur le site www.dryjanuary.fr ou télécharger l'application Try Dry. Vous pouvez justement y faire un point sur votre consommation. Vous recevez aussi des encouragements et des conseils. Et si vous souhaitez vous faire aider par un professionnel ou aider un proche, eh bien il existe le site Alcool Info Service.
Merci beaucoup Benjamin pour toutes ces précisions.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être, l'amour, la sexualité, c'est sur Europe 1 avec vous aujourd'hui jusqu'à 16h. Alors pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste. D'abord, bonne année Catherine.
Bonne année Mélanie, bonne année Jimmy, bonne année à tous.
Bon, très bien.
Une année joyeuse avec le cœur palpitant et pas seulement le cœur.
Avec vous toujours. Et Catherine, justement, pour fêter cette nouvelle année, on a une question et on en aura plein d'autres dans les jours à venir. Une question qui nous a été laissée par mail par Céline. Oui. Elle nous écrit pour nous dire que sa meilleure amie est en couple depuis 3 ans, mais vit toujours seule chez elle. J'ai du mal à concevoir une vie de couple en vivant séparée. Vous en pensez quoi? Bon, elle se mêle un peu de ce qui ne la regarde pas, mais Catherine, c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ces couples qui s'aiment, qui sont amoureux, qui sont ensemble, mais qui vivent dans 2 appartements ou 2 maisons différentes. C'est de plus en plus fréquent ou c'est...
Alors, est-ce que c'est de plus en plus fréquent? Je ne sais pas. Je crois qu'il ne faut pas réduire notamment les grandes villes, en faire d'une grande ville l'exemple national. Je crois que chaque couple a à écrire son histoire. C'est vrai qu'on n'est plus dans une urgence de se mettre ensemble pour faire des bébés, donc pour faire un foyer. Donc c'est plus une histoire individuelle. On fait des études longues pour faire un travail, etc. Donc on développe plus l'individualité, ce qui ne va pas trop dans le sens de la construction et
mais
du partage.
Au-delà du fait qu'en plus, ce n'est pas économique, mais c'est bizarre de ne pas vouloir dormir tous les soirs avec son amoureux, non?
Bon, d'abord, pourquoi faudrait-il absolument dormir? Et je vois bien dans vos yeux qu'il s'agit de plus que dormir.
Non, moi, je parlais de dormir simplement.
Oui. Enfin, je crois que évidemment qu'on peut se dire qu'on a, c'est curieux de pas avoir envie de cette tendresse, de pas avoir envie de ce partage. Ceci étant, pourquoi on peut pas faire autrement aussi? On peut reconnaître aux gens le droit d'inventer de nouvelles situations. Mais je crains qu'en effet, ce soit aussi l'expression d'une difficulté d'engagement, le besoin de voir et de se sentir libre de possibilités ailleurs. Et quand je dis ailleurs, je ne parle pas que sexuelle ou amoureuse. Je parle aussi amical, je parle aussi professionnel, comme si le couple, et qui plus est la famille, et plus tard les enfants, était un empêchement au développement de l'individualité. Ça, c'est un peu le défaut de notre monde d'aujourd'hui.
Alors, il y a peut-être quelques avantages. On n'a pas peut-être le conjoint
ou la conjointe.
On n'a pas
les chaussettes à ramasser, moi, c'est ce que je me dis.
Les chaussettes à ramasser, la vaisselle à faire, la ligne des toilettes qu'il faut absolument relever. Mais est-ce que, dans le fond, ce n'est pas un comportement d'égoïste où chacun consomme de son côté et puis on se retrouve pour les moments agréables? Or, la vie à deux, c'est des moments sympas et des moments moins sympas, mais ça fait partie de la vie.
Absolument. Et c'est pas que la vie à deux, c'est la vie tout court. Je crois qu'on est dans une société où le marketing de tout nous vend le bonheur partout, la jouissance partout. Et s'il n'y a pas bonheur et jouissance, il faut changer de produit. Eh bien, la vie, ça n'est pas ça. La vie, c'est des bouleversements. On vient de vivre une année 2020 qui était compliquée. L'année 2021, on peut se la souhaiter merveilleuse, mais elle risque de connaître aussi des complications, comme toutes les autres. Et nous vieillissons, nous rencontrons dans notre vie des accidents de parcours. Eh bien, c'est ça la vérité de la vie et de la vie à deux. Parce que ce qui est beau aussi de mesurer au moment de ces accidents ou de ces difficultés de relation, y compris ces chaussettes à ramasser, c'est qu'on est aussi à deux, on est plus fort, on est compétent à faire avec la frustration. Et sentir qu'on est compétent à faire avec la frustration augure du plaisir accru. Parce que si le plaisir ne doit être qu'une sorte de tyrannie, de revendication faite à l'autre ou faite à la société, eh bien, ça raconte une difficulté à faire avec soi-même parce que la vie nous bousculera. Ce sera l'hiver et pas toujours l'été. Ce sera plein d'inconvénients, des douleurs qui apparaîtront ici et là, qu'il nous faudra combattre. Le monde ne s'arrête pas pour autant et notre compétence s'évalue justement à cette capacité à accueillir aussi ces désagréments.
Et là, Céline, elle parle de son amie donc, qui vit en couple, enfin, qui est en couple depuis 3 ans quand même. 3 ans et toujours chacun son appartement. C'est parce que ce sont des êtres qui ont besoin de solitude, parce que bon, on peut aussi s'isoler, bon, même si la surface est petite, on peut toujours trouver un moyen de s'isoler. C'est quoi, c'est un besoin, un désir de solitude
Je crois qu'il est important de savoir faire avec soi-même et pas toujours être nourri de l'autre, parce que si on n'est que par l'autre, évidemment, on est dans une idée de creux et de vide de soi. Ceci étant, il ne faut pas aller à l'inverse, ne pas savoir faire avec les autres. Alors c'est vrai qu'on est beaucoup au mètre carré, donc on se piétine un peu et nos propres désirs sont obligés d'être relégués de temps en temps au bénéfice de la communauté ou du couple. Ceci étant, il faut arriver à trouver un juste milieu parce que sinon, effectivement, comme le disait Jimmy, on est dans un monde d'égoïsme et puis dans une défiance permanente concernant l'autre.
Pour un peu qu'en plus le couple travaille chacun de son côté, ça veut dire qu'ils ne se voient pas souvent, ils sont ensemble depuis 3 ans, ils peuvent tenir comme ça 25 ans, mais ils ne vont jamais se connaître. Or, quand on emménage ensemble, c'est là qu'on découvre réellement la personne. Et donc, c'est finalement, est-ce que c'est vraiment
attends,
une
c'est
relation
c'est bien quand on ne se connaît pas au début. Donc, si ça dure 25 ans, le côté « je te découvre », c'est pas mal
mais
aussi.
Est-ce que c'est viable, du coup, est-ce qu'on peut rester comme ça 25 ans?
Je crois qu'on risque de se faire avoir par le temps, parce qu'on va avoir le sentiment que voilà, j'ai mon petit espace, il a son espace, on érotise nos rencontres, puisqu'on ne se rencontre que dans ces possibilités-là, chacun sur son 31 et essentiellement sur son 31. Sauf que le temps va galoper et on aura oublié de faire des choses comme peut-être partager une vie toute simple, faire des bébés peut-être, construire une famille et puis apprendre aussi la tranquillité du vieillissement sans être tous les jours sur son 31 et tout ceci dans la paix, dans la douceur de la relation.
Parlez pour vous, moi je suis toujours sur mon 31.
Ça veut bien sûr, c'est connu.
On se moque, mais on le sait.
La classe incarnée. Merci beaucoup Catherine, merci Jimmy, merci Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Coucou, nous revoilou Mélanie. Et oui, ah bah non, oui, si je dis ça, c'est aussi pas pour me ridiculiser uniquement, c'est le thème de notre émission.
Mais bien sûr, ce sont les grands retours, les comebacks de l'histoire. Coucou, me revoilà avec Marguerite de Valois, vous savez, la reine Margot, qui a été chassée 20 ans de la cour, qui est revenue. Winston Churchill, qui a été viré du pouvoir, qui est revenu, on l'a reviré, il est revenu. Enfin, il n'a pas arrêté de faire des allers-retours. Et vous avez trouvé quelqu'un qui a fait un comeback
date. Oui, il fera date, même si ça vous fait du mal, vous qui êtes un fervent partisan de Donald Trump. C'est Joe Biden qui va accéder à la Maison Blanche à 88 ans. Il était temps.
Merci messieurs, beau programme. On sera à l'écoute avec Jimmy et Catherine, bien évidemment. Et vous, restez sur Europe 1.